Cacao Cast, épisode 279. Nous sommes le mardi 21 mai 2024. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe?
Ah, ça va, je suis de retour de vacances. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu.
Bien reposé, t'en as bien profité?
Oui, j'en ai même profité pour écouter l'événement Apple un peu en différé, mais j'avais trouvé un endroit avec une bibliothèque municipale et maintenant que Apple met tous ses trucs sur YouTube, j'ai pu juste télécharger l'événement de 38 minutes là, sur YouTube et regarder ça le soir dans mon VR. C'était chouette.
C'est bien, t'as pas détruit ton plan de données en regardant ça en direct.
Non, c'est ça.
Et sur puis, ton téléphone.
Et puis j'ai pas détruit mais mon MacBook Pro aussi en l'écrasant sous une presse hydraulique.
Ouais, c'est vrai que voilà, on va en parler légèrement, mais cette publicité a fait couler beaucoup d'encre. Moi, c'est marrant parce que moi, ça m'a pas choqué côté ça détruit la créativité, l'intelligence artificielle va remplacer les artistes, etc. Moi, c'est juste la presse hydraulique qui écrase des choses. Moi, je trouvais ça stressant et très oppressant. Tu sais, t'imagines en train d'être écrasé toi-même, quoi. C'est vraiment pas agréable à regarder du tout, quoi. Donc, moi, c'est ça qui me gênait le plus. Je dis, oh, quelle horreur. C'est vraiment un truc de cauchemar. Donc, voilà.
Ça m'a pas gêné tant que ça quand je l'ai regardé. Je trouvais ça un peu rigolo parce que, bon, des trucs de presse hydraulique qui écrasent des trucs, on voit ça sur YouTube tout le temps. Là, il y a des tonnes de vidéos de gens qui mettent des choses dans des presses hydrauliques, mais je peux très bien comprendre que certaines personnes aient senti que... C'est quand ça écrase quelque chose auquel tu tiens. Là. Quand ils ont écrasé la machine de Space Invaders, là, j'ai trouvé ça un petit peu... Oh non, ça c'est vintage et puis ça vaut quelque chose et puis ils vont juste le passer dans une presse hydraulique. Non, c'est pas une bonne idée.
Ouais, il y a ça. Il y a aussi l'espèce d'emoji, là. Qui explose, mais là on s'identifie un petit peu.
Écoute, il y a tellement de choses que le nouveau iPad peut faire que dans tout ce qui a été écrasé par la presse hydraulique, je suis sûr qu'il y a au moins une chose à laquelle vous teniez.
C'est ça
le défaut un peu.
Mais c'est vrai que j'avais fait un petit peu l'exercice. Entre guillemets intellectuel, de compter ou de lister tous les appareils et les technologies qui étaient remplacés par un iPhone, par exemple. Ouais. Et la liste est plutôt longue. Quand on commence à se dire ce que ça remplace de ce qu'on avait dans les années 80 et 90,
ouais.
Pour filmer, pour enregistrer, etc. Puis maintenant, c'est juste un iPhone, c'est assez impressionnant. Et c'est un petit peu l'idée derrière cette publicité, c'est un iPad remplace tout ça, quoi. Mais enfin bref, je ne sais pas qui a donné l'autorisation de tourner cette publicité puis de la publier, mais voilà, c'était vraiment pas une bonne idée. Des fois, on se demande comment ils peuvent être autant à côté de la plaque.
Mais tu sais, c'est parce que c'est quand quelqu'un se trompe qu'on se rend compte où est son vrai caractère. On apprend de nos erreurs. Si tu n'apprends pas tes erreurs, c'est ça le problème. Et puis, l'autre chose, c'est que ça nous montre que c'est fait avec des humains. Apple, ils peuvent aussi faire des erreurs. Ils n'ont pas toujours tout parfait. Mais bon, c'est avec les hauts qu'on reconnaît les bas et avec les bas qu'on reconnaît les hauts, dans un sens.
C'est ça. Il y a des gens bien déçus parce qu'il y a eu beaucoup d'argent et beaucoup de temps qui ont été... alloué à ce projet, à cette publicité.
Ouais,
les pauvres réalisateurs qui ont passé des semaines, voire des mois à préparer ça.
Ouais, mais présumément, ils ont été payés pour ça. Alors,
c'est sûr.
Tu savais le nombre de projets qu'Apple fait qui voient jamais la lumière du jour, là?
Ouais.
Comment qu'ils disaient ça? Il y avait 1000 noms pour chaque oui, puis des choses comme ça. Alors,
c'est vrai. C'est pas l'endroit idéal, ouais, où travailler, là, si on veut voir le fruit de son travail livré au monde.
Ouais, surtout quand on aime les voitures.
Par exemple, les voitures, là, peut-être qu'on en verra encore une fois quelques reliques dans Apple CarPlay. On verra ça à la WWDC le mois prochain.
Oui, ça en vient à grands pas, j'ai bien hâte.
C'est ça. Donc, on va parler très rapidement des nouveaux iPads parce qu'on est un petit peu en retard. Donc, on va pas vraiment faire du réchauffé. Je pense que voilà, tous nos auditeurs sont déjà bien au courant de ce qui a été annoncé. Donc, voilà, c'est intéressant. Je pense que l'iPad Air reste un peu l'iPad de référence, ça serait l'iPad que j'achèterais et que je recommanderais à beaucoup de monde.
Et qui vient maintenant en version plus grande encore. Alors, c'est...
Et donc, il y a une version plus grande, c'est passé au M2, donc un peu plus rapide, mais déjà, l'iPad Air M1 est excellent, donc il n'y avait pas de souci avec ça. Donc, voilà, ça reste une bonne machine. Ce qui était un peu plus intéressant, bien sûr, c'est l'annonce des nouveaux iPad Pro, qui sont très légers, très fins. Donc, je pense qu'Apple continue dans cette lancée de
rendre... Et de façon impressionnante, avec la puce M4, on s'attendait peut-être à le voir aussitôt.
Alors, je dis léger, je suis pas sûr maintenant, je doute un peu. Il est plus fin, mais il est peut-être pas le plus léger. Enfin, bref, ça, je me souviens plus, mais ça doit être à peu près la même chose. La surprise, c'est ça, le M4. Il y avait des rumeurs, on se disait, non, c'est pas possible, ils vont pas annoncer le M4 dans un iPad avant de l'avoir annoncé dans un Mac, par exemple. Eh bien, si, je pense que c'est un petit peu une question de chaîne de production un peu. Hein. Je pense que le M3 était vraiment un processeur intermédiaire. Hein. Je pense que c'est au niveau de la fabrication, c'était un petit peu ce qu'il pouvait faire au moment où il fallait un successeur au M2, mais que le M4 n'était pas complètement prêt là, au niveau de l'impression en 3 nanomètres, je ne sais plus, je crois que c'est quelque chose comme ça. Ils étaient en 3,5, etc. Donc, c'est sûr que le M3 a été fait, mais il n'avait pas une longue durée de vie. Là. C'est sûr qu'il allait sortir. Je pense que c'est juste une histoire de timing dans la production chez TSMC. Donc, voilà, c'est remplacé rapidement par le M4. Le M3 va disparaître. Et bon, bah, attendez-vous à le voir partout, le M4, là, bientôt. Les annonces vont se succéder les unes après les autres. Tout va passer au M4. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'écran OLED avec une double dalle. C'est assez impressionnant, là, donc, pour avoir une luminosité encore plus... élevé, Apple a rajouté une deuxième couche de LED derrière, donc je ne l'ai pas vu encore en vrai, il faudrait que je passe faire un tour dans un Apple Store, voir à quoi ça ressemble.
Ouais, un écran OLED, c'est vraiment différent d'un écran LCD classique. Il n'y a pas de rétroéclairage, c'est ça la grosse différence, ça donne des couleurs qui sont... plus vive, ça donne des noirs qui sont plus noirs, etc. Là, c'est quelque chose qui est assez, assez impressionnant. Les MacBook Pro ont des écrans comme ça. Le XDR est un écran comme ça. Mais la plupart de vos écrans ne sont pas des écrans OLED parce que ça coûte quand même assez cher à produire.
C'est ça. Donc, ouais, intéressant.
J'aime le nouveau crayon. Le
Pencil, nouveau crayon, ouais.
Qui est en fait plus épais que l'iPad Pro.
Ça, c'est fou, ouais.
Puis c'est quand même assez bluffant de dire que ton crayon est plus épais que ton... mais bientôt, le connecteur USB-C va être plus épais que le iPad ou l'iPhone. C'est un peu hallucinant. En fait, je pense que le connecteur USB-C au complet, avec sa petite boîte qui est autour, la petite boîte blanche autour du connecteur USB-C, cet ensemble-là, je pense que c'est plus épais que le iPad Pro lui-même par un millimètre ou quelque chose comme ça.
Je pense parce que, bien sûr... Aussitôt qu'un nouvel iPad sort, il y a des vidéos qui commencent à montrer si l'iPad peut résister au pliage.
Ouais.
Et apparemment, il est plus solide que la dernière génération des iPad Pro, étonnamment, sauf au niveau du connecteur USB-C. Donc si on tord dans la longueur, on va dire, donc vous prenez par exemple vous mettez vos mains sur les côtés les plus courtes de chaque côté de l'iPad et vous essayez de tordre de ce côté-là, ça va tenir pas mal. Bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, là, ça va quand même se tordre un peu si on force comme une brute. Par contre, si on essaie de faire la même chose, de plier comme un livre, donc en prenant les longs côtés de l'iPad, eh ben, ça va casser assez rapidement au niveau du connecteur USB-C parce que, comme tu le dis, il y a très peu d'espace entre le connecteur et l'écran sur le dessus.
C'est ça.
Donc, il n'y a pas d'endroit où mettre un peu un renfort ou quelque chose. Le connecteur va appuyer sur les écrans et ensuite sur la vitre et casser ça en premier. Donc, voilà, tu as bien raison, le connecteur USB-C va devenir un problème là, si Apple continue dans cette direction. il va falloir faire tout, tout sans fil, j'imagine. Je pense que c'est un peu le futur maintenant, parce que... Ou alors trouver un USB-C mini, mais bon, est-ce que c'est ça la solution? Je ne sais pas. Donc, c'est intéressant de voir ça.
Un jour, l'iPad aura l'épaisseur d'une carte de crédit, puis on va se dire, mais ils sont tombés épais.
ouais, c'est ça. Et, je serais curieux de savoir ce que tes filles en pensent du nouvel Apple Pencil, parce qu'elles sont dans le domaine artistique et puis elles ont l'habitude d'utiliser des tablettes professionnelles, j'imagine.
Oui, mais elles ne sont pas rendues là parce qu'elles ont mis beaucoup d'argent sur les iPad Pro de l'autre génération. Alors, on va attendre. Et puis, le nouveau crayon n'est pas compatible avec les iPad Pro de l'ancienne génération. Ceci dit, l'ancien crayon est compatible avec le R et le Pro, donc c'est quand même bien. Là. C'est juste que le nouveau crayon, il y a ces capacités-là de plus de sensibilité et ou, surtout la rotation. Et le deuxième bouton, là, on peut le resserrer pour faire apparaître un menu contextuel. Il y a même comme le crayon supporte l'effet de... En anglais, c'est hover, là, mais de survoler. Là, quand on survole au-dessus pour voir où le crayon va se poser. Il y a même une ombre qui est rendue de façon numérique sur l'écran et qui donc c'est un effet c'est pas l'ombre vraiment de votre crayon, c'est un effet de rendu un peu comme le menu qui apparaît puis des choses comme ça et qui change avec l'orientation du crayon et la rotation du crayon. C'est un détail assez bluffant quand même.
Donc c'est pas juste un petit point qui donne un peu où pointe la mine du crayon, c'est carrément l'ombre du crayon au complet.
Il y a un petit cercle qui change de taille au fur et à mesure que tu te rapproches ou que tu t'éloignes, mais il y a en plus de ça une ombre qui va changer de longueur dépendamment de l'inclinaison du crayon et qui va changer de largeur. J'allais dire de diamètre, mais c'est pas circulaire, qui va changer de largeur selon la rotation du crayon, parce que le crayon il est un petit peu plus large dans certains sens et un petit peu moins large dans d'autres, parce qu'il est pas parfaitement rond, il est hexagonal si je me trompe pas, il y a des côtés à plat. Donc il y a vraiment tous ces petits détails là pour vous donner la bonne impression de vous tromper que vous utilisez un crayon.
Ok, donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, nouveau crayon. Est-ce qu'il est... Non, je crois qu'il est au même prix qu'était l'ancien.
Est au même prix que l'ancien crayon était, et ils ont baissé le prix de l'ancien crayon pour compenser. Ils ont aussi baissé le prix de l'iPad d'entrée de gamme. Donc c'est un excellent moment pour vous acheter un iPad de 10e génération. Ce qui reste un très très bon appareil pour la plupart des gens.
iPad tout court. Hein,
oui, c'est ça.
Okay.
Oui. Si vous allez dans le R, ben là, vous allez avoir des nouvelles puces et plus de support de crayon. Là. Le R est essentiellement l'ancien Pro, surtout maintenant qu'il a deux tailles. Et le nouveau Pro est celui qui a le M4 et le super écran et tout ça. Là.
Ouais.
Et le support pour le crayon Pro, évidemment.
C'est ça.
Jusqu'à 2 téraoctets, je pense, de capacité pour le 10.
Wow.
C'est assez... Ouais. Oui, c'est beaucoup.
Et c'est quoi, dans 3 500 $
ouais, c'est ça.
Américain, j'imagine, c'est le prix d'un MacBook Pro.
C'est là. Ça, rajoutez-vous un Magic Keyboard et puis voilà.
Ouais. Donc le Magic Keyboard a été mis à jour, apparemment il est métallique, l'étui, là, c'est du métallique, c'est plus...
Il y a aussi un trackpad avec la rétroaction haptique, là.
Ouais, ouais. Donc, c'est un clavier en tant que tel, là, maintenant. Il reste relativement cher. Peut-être qu'il est un peu plus cher qu'était l'ancien Magic Keyboard.
Ouais.
C'est assez marrant parce que j'ai vu un article, c'est peut-être Gruber, qui parlait des annonces. Et en préparant l'émission, j'ai un peu pensé à faire la blague et puis j'ai un peu oublié. Et puis, c'est de faire croire qu'on allait parler des nouveaux Surface et des nouveaux PC Microsoft, les fameux Copilot plus PC. Mais voilà, il faisait un peu la comparaison entre le Surface et l'iPad. Donc, le Surface a un clavier, le nouveau Surface là, qui vient de sortir, a un clavier détachable, donc qui se connecte par... connexion un peu comme les iPads, là, une connexion magnétique sur la tranche du Surface. Mais on peut le détacher, il y a une petite batterie dans le clavier et on peut utiliser le clavier un petit peu plus loin. Donc si on veut mettre son écran un petit peu de diagonale ou l'avancer un peu plus loin, le clavier fonctionne. Et ça, on peut le faire parce que le Surface contient son propre support. Il y a une sorte de support qui peut s'ouvrir comme ça en angle. Oui,
et ça, c'est le cas depuis le début. En fait, le Surface a toujours été comme ça. On déplie le clavier vers nous et il y a une petite patte qui sort de l'arrière de l'ordinateur et qui vous permet de l'accoter sur une table.
Exactement. Mais c'est un truc qu'on ne peut pas faire avec l'iPad. Et si on veut faire quelque chose un peu semblable, eh ben, il faut le Magic Keyboard. Et on ne pourra pas le détacher, là, parce que si on détache l'iPad du Magic Keyboard, l'iPad, il tombe par terre. Là.
Ben, on a donc, le Smart Keyboard Folio aussi, si je me trompe. C'est celui que j'utilise avec mon iPad Pro, qui est celui qui se plie, qui fait un petit repliage triangulaire, style origami un peu, là, et qui vous permet de l'accoter à un angle particulier. Et quand vous le retournez de côté, ben, vous avez une autre façon de l'accoter plus à l'horizontale sur la table.
C'est ça.
Oui, ça prend quelque chose pour accoter votre iPad pour qu'il tombe pas, là, finalement.
Alors, est-ce que c'est vraiment utile? Microsoft montrait une image de quelqu'un qui était dans un avion. Donc, il avait mis son Surface sur la tablette et il avait le clavier sur ses genoux.
Ben, pourquoi
il
pas.
Pouvait travailler comme ça. Ouais. Quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire avec l'iPad. Là, il faut soit replier la tablette et avoir tout sur les genoux.
Il faut que tu traînes ton propre clavier Bluetooth.
Ou avoir un clavier Bluetooth. Quoi. Ouais, donc, c'est sûr que c'est un choix de design. C'est sûr que le Surface, eh ben, il est un peu plus gros, un peu plus épais, parce qu'il a cette espèce de support intégré que l'iPad n'a pas. Faut voir. Donc, les deux designs se valent.
Les Surfaces, il y a même des ventilateurs. Est-ce que je me trompe?
Oui, ça, c'est possible. Alors, les nouveaux, je ne suis pas 100% sûr. Là, il y a une nouvelle puce... je ne me rappelle plus du nom maintenant, Elite X de Snapdragon, là, qui serait 50% plus rapide que le M3. Donc, Microsoft a passé beaucoup de temps à comparer leur nouveau Surface et leur nouveau portable, laptop, là, avec le MacBook Air. Donc, bon.
Et le iPad, évidemment.
Et l'iPad aussi. Donc, c'est la guéguerre a commencé. Ce que je notais qui était assez intéressant, c'est que ça y est, l'industrie est maintenant... passer du côté ARM, donc l'architecture ARM qui est dans les M1 et les M2 et M3, M4 depuis 5 ans maintenant.
Ouais.
Je pense que ça a commencé en 2020, la transition, 4 ans on va dire. Et bah, Microsoft, ça y est, ils s'y mettent. Alors Intel est
en
un
fait,
petit
ça a commencé bien avant ça parce que les iPhones, non, c'est
processé depuis
un certain temps. Hein.
C'est vrai.
Toi, tu parles de plus au niveau iPad et ordinateur.
Et PC, c'est plus le monde PC qui, ça y est, qui bascule aussi côté ARM. Donc
oui,
Microsoft.
Depuis l'introduction de Apple Silicon, je pense que c'est ça, en 2020. T'as raison. Au niveau des portables et des tablettes, là, plutôt que des téléphones, parce que les téléphones, même du côté. Android sont beaucoup sur des processeurs ARM avec Snapdragon, etc. Les premiers étaient sur des processeurs Intel, mais ils n'ont pas duré très longtemps.
Ouais.
La consommation d'énergie étant quand même un problème chez les processeurs Intel.
C'est ça. Donc, je pense qu'ils ont tourné la page. Ils ont essayé, puis ça ne marche pas. Les portables, tout ce qui était Intel, il y avait des ventilateurs, ça chauffait, la batterie ne tenait pas longtemps, etc. Donc, ça y est, maintenant que Snapdragon offre à l'industrie une puce qui peut concurrencer l'Apple Silicon, ça y est, tout le monde y passe. Donc voilà, maintenant c'est Windows, ARM, Intel va disparaître petit à petit. Donc Intel, là, si j'étais chez eux, je ferais du souci.
Ce qui va être vraiment surprenant, c'est comment Microsoft va gérer cette transition vers ARM, parce que ça fait des années que Windows sur ARM existe, mais ça fait des années que ça vivote uniquement dans des projets un peu ésotériques, là, soit de petits ordinateurs portables ou de petites tablettes ou des choses comme ça, qui ont, somme toute, assez peu d'influence sur l'écosystème en général, alors que tout l'argent, et pas tant l'argent, mais tout le, disons, l'investissement logiciel, là, les librairies et tout ça, tout est fait sur Intel. Hein, les jeux et tout ça, c'est toujours fait sur Intel. Et la transition à ARM, ben oui, il va falloir qu'il y ait une sorte d'émulation, j'imagine, de l'émulation Intel pour que ça puisse fonctionner. Mais éventuellement, il va falloir qu'ils fassent comme Apple et réussir leur transition de processeur, chose qu'ils n'ont jamais fait. Alors que Apple, évidemment, est passé des 68 000 au PowerPC, des PowerPC à Intel et des Intel au Apple Silicon. Donc, ils ont fait trois transitions, quatre processeurs. Et pour Microsoft, c'est leur première vraie transition d'architecture parce que depuis le début, des 80-86, c'était l'architecture de base pour Windows et pour tout ce qui vient avec. Bien sûr, ils ont fait des transitions de 16 bits à 32 bits à 64 bits, on s'entend, mais ce n'est pas une transition d'architecture tant qu'une transition de... c'est une transition d'architecture, bien sûr, mais ce n'est pas une transition d'architecture majeure au niveau du jeu d'instruction, parce que chacune des instructions de 16 à 32 à 64, les jeux d'instruction sont des sous-ensembles ou des super-ensembles l'un de l'autre, ce qui n'est pas du tout le cas des architectures RISC.
Oui, très bonne remarque. Donc, je pense que c'est une grande aventure là, sur laquelle Microsoft s'embarque et il va y avoir du travail.
Et je leur souhaite de la réussir, leur transition, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dépendent de tous ces programmes et toutes ces architectures. Il y a, écoute, des machines qui roulent encore aujourd'hui sur Windows XP, il y en a. Hein? Puis il y en a plus qu'on pense. Et il y en a dans des systèmes critiques. Qui roulent dans des trucs comme ça, où ça fait marcher des petites, moyennes et grosses entreprises, des banques et des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements qui ont été faits là-dedans. Alors, j'espère que leur transition sera réussie pour le bien-être de tout le monde.
Il faut espérer, ouais. C'est vrai que moi, ça m'arrive d'avoir vu dans un aéroport ou dans une épicerie un terminal de point de vente qui avait crashé, puis on voyait l'écran de Windows XP derrière. Donc, c'était assez effrayant. Ouais. Bizarrement, juste pour terminer la petite parenthèse, Microsoft a beaucoup parlé du matériel, et puis parlé qu'il y aurait Copilot partout là, ils ont aussi annoncé qu'il y a une puce il y a le CPU, le GPU et le NPU, je crois, donc le Neural Processing Unit, l'équivalent de la... Neural Engine chez Apple, qu'ils ont depuis un moment. Donc, on parle de 40 trillions d'opérations par seconde. Donc, je ne sais pas ce qu'Apple peut faire, mais j'ai cru entendre que c'est dans les trillions aussi, donc je pense que ça ne doit pas être bien loin. Ça arrive, mais ils n'ont pas trop parlé donc de transition, de compatibilité, comment ça va marcher, là, quelles applications vont fonctionner au début, lesquelles vont être en émulation, etc. Donc là,
c'est clair, c'est pas tant les applications que tout ce qui s'en vient sur l'intelligence artificielle, parce qu'on a beau être sceptique. Comme je le suis sur l'intelligence artificielle, le fait est qu'au point de vue matériel, ça demande des capacités de calcul qui sont quand même assez bluffantes. J'ai l'impression que toutes les économies qu'on a réussi à faire au niveau énergétique et tout ça, dans les dernières années, seront complètement avalées par ce que ça demande au niveau processeur pour régler les problèmes pas pour régler le problème, mais pour résoudre les modèles. Quand on pose une question à ChatGPT, ce que ça fait, c'est que ça fait marcher un modèle et ça résout des centaines de milliards d'opérations pour arriver à une réponse stochastique qui va vous mettre du texte pour mettre un mot devant l'autre. Le plus rapidement on est capable de résoudre ces équations-là si c'est local, le plus naturel va apparaître l'intelligence artificielle. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir des processeurs qui sont capables de gérer ces modèles-là et qui sont même bâtis pour exprimer ces modèles. Et quand je dis modèle, je dis simplement que c'est un ensemble de millions d'équations, c'est tout. C'est uniquement ça, le modèle.
Donc, à voir ce qu'Apple va annoncer à la WWDC, ça va être probablement dans la même veine d'avoir le Neural Processing Engine, là, le NPU, sur les appareils. Donc,
il existe déjà, le Neural Engine est déjà là. C'est juste
il existe,
maintenant,
mais...
on va y avoir accès en vraie intelligence artificielle qui ne sont pas des modèles... parce qu'on a déjà des modèles d'intelligence artificielle sur votre iPhone. Là. Si vous avez un iPhone récent et que vous avez des photos et que ça reconnaît les visages, c'est de l'intelligence artificielle. C'est exactement le même processus, sauf que c'est un modèle qui est beaucoup plus limité, qui est conçu pour la reconnaissance de visage, par exemple, qui est optimisé pour ça. Et maintenant, le modèle a été augmenté pour reconnaître, je ne sais pas moi, les paysages, les fleurs, les animaux et des choses comme ça. Mais ça reste des utilisations limitées, ou des utilisations spécifiques, pardon. J'ai l'impression que ce qui s'en vient, et on le voit un peu dans la presse telle que... Pas la presse, mais la revue de presse, la relevé de presse, le press release, là. Oui. Comment Apple met ça sur Apple Newsroom. Et puis, on voit que l'intelligence artificielle est un peu partout dans leur présentation. Je m'attends à ce que la WWDC, dans 3 semaines, ils nous mettent de l'intelligence artificielle partout pour suivre un peu le train, là. Et là où ça s'en va. Et la différence, c'est qu'ils vont essayer de faire beaucoup fonctionner les modèles en local, alors que bien des modèles actuels ne fonctionnent que dans le cloud, finalement.
Oui, oui. Ce que je voulais dire, c'est que Microsoft parle de faire tourner leur modèle en local aussi, donc c'est sur ce fameux NPU qu'il y a sur leur nouveau Surface. Donc, à voir. Je pense que ça y est, les hostilités sont lancées, ça va être intéressant. Microsoft a misé quand même sur le bon cheval avec un investissement chez OpenAI /ChatGPT
depuis le début. GitHub, on oublie que
et GitHub aussi, ouais.
Qu'ils ont racheté GitHub, et ils font quand même quelque chose de bien avec. J'entends beaucoup parler de GitHub Copilot. J'ai des collègues qui en sont extrêmement satisfaits. Personnellement, je ne suis pas convaincu, mais le fait est qu'il y a des gens qui s'en servent. Donc c'est pas un truc qui sert à rien. C'est un truc qui semble prendre son envol.
Oui, donc intéressant à suivre. Je pense que Microsoft a une petite longueur d'avance, mais avec Apple, on va voir comment ils vont répondre et à quelle sauce ils vont présenter ça. Ils vont probablement pas faire comme les autres. On espère que ça soit un peu plus intéressant. Donc nouveaux iPads. Si c'est pour vous le moment de mettre à jour, vous aviez un vieil iPad à remplacer, je pense que là, il y a l'embarras du choix entre l'iPad tout court qui est un peu moins cher, l'iPad Air qui est parfait, je pense que pour beaucoup, beaucoup d'utilisation. Et puis, si vous vraiment, vous êtes un pro, vous avez besoin d'une machine plus puissante, mais très portable, l'iPad Pro est excellent. Dernière chose que j'ai entendue beaucoup de fois, c'est que ça se répète à chaque génération d'iPad, c'est OK, l'iPad est encore de mieux en mieux, mais iPadOS n'est pas à la hauteur. Donc, encore une fois, WWDC, est-ce que c'est une petite mise à jour incrémentale d'iPadOS, ok, on a rajouté quelques trucs par-ci par-là, ou est-ce qu'ils vont vraiment aller plus loin? Est-ce que le serpent de mer de macOS qui tourne sur un iPad va se réaliser, ou c'est toujours un rêve inaccessible? Mais plus ça va, plus on se dit... Enlever même l'écran tactile, je m'en fous. Juste avoir l'iPad qui fait tourner macOS avec le Magic Keyboard, moi, ça me suffirait.
Et un seul port USB, donc on se retrouve avec le c'est quoi, c'est le MacBook One qui avait juste un port USB, là.
Mais ils pourront en mettre un deuxième, éventuellement pour faire une version macOS après. Mais là, on commence à se dire... OK, pourquoi au moins pas faire un mode compatible macOS, ou de pouvoir faire un jailbreak et installer macOS sur ces machines? Parce que là, avec un M4 dedans, ça serait une machine tellement portable et tellement bien avec macOS. Mais
ou ils pourraient faire tourner comment ça s'appelle, les frameworks dont on a parlé, les frameworks de virtualisation, c'est Hypervisor et des choses comme ça. Imagine s'ils mettaient ça sur iPadOS, puis tu pouvais installer une application qui... Tu pouvais te bâtir une application qui permet de virtualiser macOS sur iOS. Ouais. Ça serait pas mal, ça.
C'est, à mon avis, c'est peut-être déjà fait quelque part. On verra.
Non, mais si les frameworks n'existent pas sur iOS, tu peux rien faire. Parce que le framework de Hypervisor, en ce moment, il existe juste sur macOS. Mais si à WWDC, ils annoncent... Vous savez, le framework Hypervisor, eh bien, il est dans iPadOS 18. C'est comme... Oh! Les gens vont sauter là-dessus.
C'est ça. Oui. On peut toujours rêver. On verra, on en reparlera le mois prochain si on est déçu, encore une fois.
Écoute, en grande première, moi, je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Je pense que c'est ça qu'ils vont annoncer. C'est ma prédiction pour la WWDC, c'est que, à part tous les trucs d'intelligence artificielle qui sont des trucs garantis, là, je pense que la surprise, ça va être que Hypervisor, le framework qui permet de faire ça, parce qu'on le sait depuis 2 ans, là, on est capable de bâtir des applications sur macOS en quelques lignes de code qui vous permettent de faire de la virtualisation et de la gestion de machines virtuelles qui roulent macOS. Là. Oui, il y a des limites, comme du style, on ne peut pas se brancher sur Apple ID et des choses comme ça, là, mais en général, ça fonctionne bien et c'est très bon pour faire des tests et des choses comme ça. Bien, c'est ce que je pense que la surprise de la WWDC, c'est qu'ils vont dire, ben, vous savez, ce framework-là, maintenant, il existe sur iPadOS.
Ça serait une bonne chose. Encore une fois, tout ce qu'on entend venant d'Apple officiellement, c'est macOS n'est pas fait pour une interface tactile. Voilà, c'est une souris, un clavier, puis rien d'autre, ou un trackpad. Mais encore une fois, non, désactive l'écran tactile, je m'en fous, moi. Ouais, j'ai pas besoin de toucher l'écran. Si j'ai une souris, un clavier et un iPad avec macOS dessus, je suis content. Hein. J'ai pas besoin de plus que ça. Donc, un jour, ça va être intenable de dire voilà, on a une super machine ultra puissante, mais la seule chose qui peut fonctionner dessus, c'est iPadOS avec des fonctionnalités relativement limitées.
Et puis on en entend même pas parler encore. Là, tu sais.
Ouais. Enfin bref, allez, on passe à autre chose. On a encore beaucoup de choses, beaucoup de sujets à parler. Privacy Manifest, on en a parlé au mois de mars. On vous a parlé que ben, ça s'en vient. Il va falloir mettre un manifeste de vie privée, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, dans vos applications pour dire au système et aux utilisateurs quel genre de fonctionnalités qui peuvent impacter vos informations de vie privée ou d'accès aux fonctionnalités de votre machine vont être utilisées par l'application. Voilà, ça on en est parlé. Mais tu nous as dégoté un petit outil qui peut permettre de faciliter la vie aux développeurs parce que c'est... Ouais. Pas forcément simple d'écrire ce petit fichier là de surtout quand on a besoin de pas mal de choses dans sa propre application. Donc comment ça marche?
Mais c'est ça. Alors le fichier Privacy Manifest, c'est un fichier .xc manifest, là. Finalement c'est un plist et il existe un pochoir dans Xcode qui vous permet d'en créer un à partir de rien et de commencer à le remplir en mettant les différentes valeurs, mais c'est pas ultra convivial. Si vous avez déjà modifié un fichier plist à l'intérieur d'Xcode, vous dites, c'est possible. Quand on sait exactement ce qu'on doit faire, ça se fait bien. Mais des fois, on sait pas exactement ce qu'on doit faire. Et c'est le fun d'avoir un outil comme privacymanifest.dev qui vous aide à remplir ce fichier-là en vous faisant des suggestions et en vous rajoutant un peu des questions un peu plus en détail basées sur la documentation d'Apple. C'est comme si en lisant la documentation, on créait notre propre fichier Privacy Manifest et à la fin, on a ce petit playlist qu'on peut directement intégrer dans notre programme. Comme c'est obligatoire pour toutes les nouvelles applications depuis le 1er mai, si vous avez une nouvelle application, vous devez rajouter ce fichier-là. Ça va devenir probablement inclus et un peu plus facile à faire dans Xcode 16, là, mais dans Xcode 15, pour le moment, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site web qui est fait par Donny Walls, qui est un auteur assez connu au niveau des... il fait des livres, il fait des trucs sur Combine, etc. Avec différents éditeurs, qui est quand même assez bien reconnu pour vous donner confiance que votre Privacy Manifest est adéquat. Évidemment, le test final, c'est quand vous envoyez l'application à l'App Store, est-ce qu'elle est acceptée ou elle est rejetée. À date, d'un point de vue professionnel, on n'a pas eu de problème encore. Et d'un point de vue personnel, j'ai pas encore mis d'application sur l'App Store depuis le 1er mai, alors je peux pas répondre vraiment. Mais j'ai bien l'intention d'utiliser Privacy Manifest pour mes propres applications dès que je remettrai des trucs sur l'App Store.
Oui, j'aime bien ce que tu as dit. Hein. C'est une documentation en ligne qui génère le fichier à la fin quand vous choisissez les options qui vous intéressent, qui sont utiles à votre application. Donc ça, j'aime bien. C'est une bonne idée d'avoir fait ça. Donc peut-être que voilà, soit Apple prendra au moins l'idée d'avoir quelque chose de similaire sur developer.apple.com ou alors, comme tu le dis, que de l'intégrer dans Xcode, prochaine version. Que ce soit un peu plus simple pour les développeurs de remplir ce fichier avec les bonnes formations. Donc, si vous allez sur le site Privacy Manifest, donc c'est en anglais, hein, privacymanifest.dev, vous tombez directement sur cette page qui vous permet de sélectionner les sections que vous voulez. Vous pouvez rajouter des domaines, rajouter des types de données qui sont collectées, etc., etc. Puis sur le côté droit, bah, vous voyez votre fichier, votre manifeste qui commence à se remplir petit à petit. Puis vous pouvez le copier dans le presse-papier ou alors télécharger le fichier directement. Donc voilà, un bon outil bien pratique. Une petite nouvelle aussi qui est arrivée, je pense, en fin de semaine dernière, peut-être dans le courant de la semaine dernière. Nos amis de VMware, nos amis entre guillemets. Donc VMware a été racheté, je crois, hein, par, maintenant je ne sais plus, par une énorme compagnie. VMware, est-ce que c'est écrit Broadcom. Donc Broadcom a racheté VMware il y a l'année dernière ou il y a quelques mois. Et puis ça nous a fait un petit peu peur parce que VMware était déjà une relativement grosse compagnie, mais quand ça rentre dans une énorme corporation, là tout de suite.
Ils ont eu beaucoup de monde à pied et puis ils ont renvoyé du développement dans d'autres pays, des choses comme ça. Fait les trucs habituels qu'une grosse compagnie va faire pour.
Puis ça augmente les prix, ça devient très professionnel, il faut acheter des licences, des machins, etc. Donc c'était un petit peu inquiétant. Je pense qu'il y avait une version gratuite qu'on pouvait télécharger, puis après elle était très dure à trouver, voire introuvable. Cette version gratuite, je pense qu'elle existait encore, mais c'était fait d'une certaine façon là, pour que vous ne trouviez pas le lien. Donc, si vous alliez sur le site VMware, impossible de trouver une version gratuite de VMware Fusion. Mais ça y est, maintenant c'est officiel le 14 mai apparemment. VMware a annoncé que vous pouvez utiliser VMware Fusion Pro pour un usage personnel. Donc voilà, n'essayez pas de l'installer sur des serveurs d'une entreprise ou de vendre des services qui utilisent VMware Fusion Pro là. Mais si c'est un peu comme vous et moi et comme Philippe peut-être de tester quelque chose, d'installer Linux sur votre Mac ou je pourrais dire une autre version de macOS ou ça, c'est pas vraiment très utile parce que, comme tu parlais des API de virtualisation, on n'a pas vraiment besoin de VMware pour ça. Mais Windows 11 pour ARM, qui va devenir de plus en plus populaire, j'imagine, grâce à ces nouveaux Surface dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'il y a, comme tu le disais, une version de Windows 11 pour ARM qui existe, mais ce n'est même pas une version vendable, c'est une sorte de version d'essai, de prototypage de test là qu'on peut télécharger et installer, mais je pense qu'elle est relativement limitée, il n'y a peut-être pas tout là-dedans. Donc voilà, espérons que le timing se fasse bien. Windows 11 supporte ARM complètement, et si avec un peu de chance, si vous installez VMware Fusion Pro sur votre Mac, vous pourrez installer Windows 11 pour ARM aussi, et puis
j'espère
pouvoir...
J'espère que vous avez beaucoup d'espace disque, parce que ça prend énormément d'espace disque.
Oui. Mais voilà, c'est une des utilisations les plus évidentes, on va dire, de VMware. C'est quand on veut faire tourner soit Linux, ou surtout Windows sur un Mac. Donc, on mettra le lien de l'article là, sur 9to5Mac, et peut-être le lien chez VMware Fusion. VMware pour trouver la version 13 gratuitement.
J'aime bien l'article de 9to5Mac parce que télécharger des trucs sur le site de VMware, c'est toujours un peu compliqué. Il faut qu'on se crée un compte, etc. Je l'ai fait. La dernière fois que j'ai fait ça, ça doit bien faire une quinzaine d'années. ça fait longtemps. C'était un peu complexe de télécharger ces trucs-là, mais je pense que ça n'a pas vraiment changé pour ces grands programmes-là.
Ouais, donc c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il y avait une demande pour ça. Et puis,
ils se font un peu manger leur pain et leur beurre par Parallels en ce moment, je pense.
Peut-être. Pourtant, Parallels, il n'y a pas de version gratuite, je pense. C'est peut-être plus abordable.
Au professionnel, le Mindshare se dirigeait un petit peu plus vers Parallels.
Okay.
Qui est. C'est pas Corel qui a ça, justement. Compagnie.
Que tu connais, ouais.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Je sais pas, parallèle.com, est-ce que c'est écrit? C'est une compagnie? C'est pas clair. Parallel International GmbH, donc c'est une compagnie allemande, mais à qui elle appartient vraiment, je ne sais pas trop. On regardera ça. On tiendra au courant.
Le monde de la haute finance des logiciels, c'est ouais. Passionnant pour notre auditoire.
C'est certain.
Tu sais qu'est-ce qui est passionnant pour notre auditoire, par contre, créer vos propres sites web.
Des propres sites statiques pour l'instant. Donc, notre cher Paul Hudson, du fameux le compte Two Straws, mais surtout Hacking with Swift, oui. Etc. Les 100 jours de Swift UI, les 100 jours de Swift, voilà, c'est des ressources qu'on a déjà partagées dans le podcast, bien sûr. Il a annoncé un nouveau framework. Et un nouvel outil. Hein,
c'est plus un outil qu'un framework.
Il y a une librairie qui permet donc, voilà, de générer des sites HTML qui inclut Bootstrap, je pense. Donc, il y a toute une librairie HTML, CSS, JavaScript qui s'appelle Bootstrap et qui, pour l'utiliser, demande des connaissances relativement... Je ne veux pas dire pointu, mais bon, faut s'y connaître dans le développement de sites web. Et puis, il faut connaître, voilà, comment on écrit du CSS, comment on architecte... non, c'est peut-être pas le bon mot, mais on fait des sites...
On assemble les
différentes dimensions, etc. Et puis, il y a des petits bouts de JavaScript là-dedans et tout ça. Donc, c'est pas évident. Donc, Paul a annoncé une nouvelle librairie et un outil qui va avec, qui s'appelle Ignite. Donc, ça met le feu. Je ne sais pas quoi, ça met le feu à HTML. Qui permet, donc, pour l'instant, de faire des sites statiques. C'est-à-dire que ce n'est pas un serveur. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on installe sur un serveur Linux, par exemple, et puis qui va
se connecter... Comme Vapor ou quelque chose comme ça.
C'est ça, qui va se connecter à une base de données, puis vous servir des articles ou des choses de la base de données, etc.
C'est en plus un outil... Pochoirs, etc., là, ouais.
Exactement. C'est plus un outil comme Hugo, qu'on utilise pour cacaocas.com. Hugo, c'est un petit utilitaire. On lui donne certaines configurations, des fichiers Markdown pour les différents épisodes. Puis on lui dit, génère-moi un site statique, c'est-à-dire que ça va vous générer tout un tas de fichiers HTML dans des répertoires bien spécifiques qui se relient les uns les autres. Et pof, ça, vous avez juste à téléverser vos fichiers HTML sur votre serveur favori, Nginx ou Apache, etc.
Oui, parce que ça reste du HTML 5. Là.
Voilà, tout simple. Donc, il n'y a pas de base de données derrière, il n'y a pas de connexion. Ce n'est pas un site dynamique là, qui se modifie tout seul en fonction de ce qu'on veut faire avec. Donc, c'est quand même une très bonne utilisation. Et j'ai commencé à regarder un petit peu. J'ai installé Ignite sur ma machine. Et puis, je commence un peu à réfléchir à est-ce qu'on pourrait passer de Hugo à Ignite éventuellement. Je vais regarder ça. C'est peut-être plus de travail que je le pense. Mais ça pourrait être sympa. Alors de...
que tu réécrives tout ton Markdown en SwiftUI.
Ben oui et non, parce que je pense qu'il a mis une librairie Markdown qui est incluse dans le package de Ignite qui permettrait de lire tous mes fichiers Markdown et après à moi de coder un peu de Swift derrière pour l'afficher correctement. Donc c'est pour ça, je ne veux rien garantir, je vais juste regarder à voir comment ça marche, mais j'aime bien l'idée. J'aimerais bien pouvoir décrire un peu de Swift pour générer le site plutôt que d'utiliser Hugo, qui est un bon outil, hein, mais qui est un outil un peu plus... pas fermé, mais il faut
un langage qu'on maîtrise un peu moins. Alors
c'est ça, et puis il faut rester un petit peu dans les limites de ce que Hugo peut faire, etc. Alors que là,
on peut pas commencer à parler de limites de SwiftUI, parce qu'il y a des limites dans SwiftUI aussi.
Oui, il y en a peut-être aussi, mais là, c'est du Swift. Ça ressemble un peu à du SwiftUI, donc c'est déclaratif, hein. c'est la même façon de procéder, là, qu'on déclare un petit peu son site HTML avec les différentes sections... avec les en-têtes, les pieds de page, les navigations, etc. etc. Donc, intéressant. Donc Philippe, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, mais voilà, j'ai passé un petit peu de temps à regarder. J'ai regardé la vidéo de Paul qui introduit Ignite.
Oui, c'est quand même tout jeune. Hein. Ça prend à peine 2 mois là. Alors
c'est... Ouais. C'est le côté qui m'inquiète un petit peu. C'est commencer à travailler sur un site et puis d'avoir une librairie qui dessous change très régulièrement. Ça va être peut-être un petit peu rock'n'roll. C'est mieux des fois de, tu sais, de laisser un peu de temps pour que la librairie se stabilise et ensuite de pouvoir commencer à faire une conversion.
C'est ça qui t'intéresse, c'est Jekyll qui est fait en Python et qui existe depuis très longtemps.
Ouais, ouais. Non, mais je vais, comme je le disais, je vais commencer plus par de la recherche et un peu tester le truc, voir comment...
Je parlais pour nos auditeurs en particulier.
Oui, ah oui, c'est ça, c'est sûr. Pour les auditeurs, peut-être, voilà, Ignite, si vous avez un gros projet, c'est un peu risqué, là. Ou pour un client, par exemple. Mais si c'est un truc personnel, ou un site comme cacaocas.com là qui c'est bon, c'est pas trop grave si les choses marchent pas complètement ou je dois enlever une fonctionnalité ou deux pour que ça fonctionne, c'est pas trop grave, mais voilà.
Est-ce que tu penses que Ignite fonctionne sous Linux?
Bonne question.
Je pense au serveur d'intégration continue, parce que quand tu déploies ton code, généralement la machine qui va te servir ton internet n'est pas une machine Mac, mais plutôt une machine Linux. Donc généralement le serveur d'intégration continue est aussi Linux.
Je ne sais pas sûr. Ça va dépendre un petit peu du client, là, le fameux utilitaire. Le CLI de Ignite, qui s'appelle Ignite. Est-ce que ça a besoin de Xcode pour compiler tout ça? Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas vu de documentation qui parle de Linux encore. Donc, la documentation ne parle que du Mac. Mais je pense que c'est encore une fois qu'une question de temps. Qu'il y ait quelqu'un qui fasse, si ça n'existe pas encore, qui dise voilà, voici les scripts ou voici les modifications requises pour faire fonctionner tout ça sur Linux. Ça va être une question de temps, ça ne m'inquiète pas trop. Voilà, donc si vous allez sur le compte de Paul, TwoStraws, TwoStraws, le projet s'appelle Ignite, Ignite. Et il y a donc toute la librairie en code ouvert, en code source. Et il y a aussi le client, le fameux client qui vous permet de créer un site par défaut. Et puis ensuite, voilà, vous rajoutez votre propre code là-dedans. Donc, ça peut être intéressant. Et il y a aussi un autre, vous verrez ça dans la petite documentation, un lien vers un site d'exemple. Donc, c'est ignitesamples.hackingwithswift.com qui vous montre un peu voilà, ce que la librairie peut faire. Donc, elle peut faire pas mal de choses, mais je pense qu'elle ne peut pas tout faire encore. C'est pas... On sent que ce n'est pas un projet terminé, final, voilà, prêt à l'utilisation. C'est quelque chose qui démarre. Je pense que c'est une bonne idée. Et voilà, Paul va accueillir à bras ouverts toutes les aides qu'il peut avoir de gens qui rajoutent des nouvelles fonctionnalités, puis des nouvelles choses à la librairie. Voilà, donc Ignite, bonne petite librairie. Paul Hudson, je ne sais pas comment il fait. Je me demande s'il n'a pas plusieurs versions de lui-même, quoi, parce que non seulement il écrit des applications, il écrit des librairies, il met à jour toutes ses, quasiment toutes ses ressources éducatives, ses livres, etc. Et parce que tout est mis à jour, c'est pas des fois, il y a des livres ou des formations en ligne qui sont pour Swift version 3 hein, et puis qui n'ont pas bougé depuis plusieurs années, et il met ça à jour très, très régulièrement et ça fonctionne avec les dernières versions de Swift, etc. C'est assez impressionnant. On va parler maintenant de quelque chose, et là je vais te laisser parler cette fois-ci, Philippe, parce que je ne suis pas complètement sûr de comprendre comment ça marche, mais ça a l'air intéressant. Et c'est quoi, une librairie aussi qui s'appelle, ou un package Swift qui s'appelle Feather Quill?
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà, Feather Quill, et qu'est-ce que ça fait?
C'est relativement récent, cette petite librairie. Même je dirais que c'est en version comme alpha. Là, donc, des fois, on vous parle de frameworks qui sont quand même bien établis. Là, celui-là, c'est un peu un couteau, une lame très tranchante. Donc, à utiliser avec circonspection, mais. Ça a une utilisation bien particulière. L'utilisation est la suivante. On parle des caractéristiques de votre application. Par exemple, vous avez un module qui est activé ou qui est désactivé. Je peux vous donner un exemple. Vous avez une nouvelle caractéristique de votre application qui vous permet de vous connecter sur un nouveau type de serveur. Votre application elle-même vous permet de télécharger des livres de certains services pour pouvoir les lire sur votre iPad. Eh bien, vous voulez intégrer la possibilité de lire un nouveau service, mais vous voulez pas la donner à tout le monde du premier coup. Vous voulez la donner à seulement quelques personnes ou un certain pourcentage de vos utilisateurs pour que, si jamais ça marche pas, ou qu'il y a un problème quelconque, vous avez la possibilité de désactiver cela sans endommager un peu tous vos utilisateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques, ou en anglais, c'est feature flags. Généralement, ça prend une composante serveur et une composante client, parce que faut que vous puissiez contrôler un peu à distance comment ces caractéristiques-là apparaissent dans votre application. Il y a plusieurs services qui existent. On parle de Config4, on parle de LaunchDarkly, qui est très connu, et puis différents services de débogage aussi, on va en voir ces capacités-là. Mais celui-là, il est intéressant parce qu'il est entièrement en mode hors ligne, c'est-à-dire qu'il est intégré à votre application sans avoir de serveur. C'est pas ultra compliqué, mais comme ça existe déjà, on en parle, on aime ça avoir des frameworks qui nous évitent de réinventer la roue. Et si, disons, vous voulez lancer votre application et de dire que la première semaine, il va y avoir 20% de mes utilisateurs qui vont avoir cette nouvelle caractéristique, et la semaine d'après, il va y avoir 40%, la semaine d'après, il va y avoir 60%, et que vous êtes un peu certain de votre stratégie de déploiement, vous pouvez utiliser quelque chose comme FeatherQuill, qui va vous permettre de contrôler le déploiement de vos caractéristiques sans jamais avoir besoin d'un serveur. Donc, ça fait une distribution probabiliste un peu là, et qui est aléatoire, mais ou aléatoire contrôlé. Par exemple, je vous dirais que simplement ceux qui ont des iPad Pro nouvelle génération aient cette nouvelle caractéristique-là, ce qui va limiter votre auditoire un peu. Et puis après ça, vous dites, ben là, c'est tous les iPad Pro ou tous les iPads sur, disons, iOS 17 vont avoir cela, et ceux qui sont sur iOS 16 ne l'auront pas pour le moment parce que je ne l'ai pas encore testé sur iOS 16, etc. Là. Ça vous permet de contrôler un peu le déploiement de vos caractéristiques. C'est à ça que ça sert et ça marche sans serveur. Maintenant, je ne l'ai pas utilisé. C'est une version 0.0.1, donc c'est vraiment ultra alpha. C'est quelque chose qui a été présenté à la conférence Deep Dish Swift le mois dernier, et la personne a mis son répertoire GitHub en ligne. J'imagine que les vidéos de cette conférence-là vont sortir, on va en parler quand ils vont sortir, ou je ferai un petit message sur Mastodon, etc., qui explique un peu plus en détail qu'est-ce que ça fait, parce que le README par lui-même n'est pas super explicite. Mais si vous êtes intéressé par ce genre de choses, c'est-à-dire de ne pas donner à tous les utilisateurs les nouvelles caractéristiques instantanément, parce que quand on sort une nouvelle version, tous les utilisateurs peuvent avoir accès à la nouvelle version et avoir vos caractéristiques. Jetez un coup d'œil à FeatherQuill.
C'est assez intéressant parce que je trouve que c'est assez méta comme approche là, d'avoir dans son code de son application des classes ou des structures qui décrivent les fonctionnalités qu'offre votre application, puis d'ajouter, de définir une certaine logique d'accès à cette fonctionnalité, donc en fonction du type d'utilisateur, donc du pourcent de chance de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, oui ou non, etc. Donc il y a toutes ces petites choses là qui peuvent être contrôlées de façon très précise.
Et puis pour rentrer les choses le plus simple possible, le but de ces caractéristiques-là, de ces petits feature flags, c'est d'éventuellement de ne plus les avoir. Hein. C'est sûr que si vous créez une nouvelle fonctionnalité pour votre application, une nouvelle caractéristique, vous voulez qu'à terme, tous vos utilisateurs qui peuvent l'avoir l'ont. C'est sûr que vous avez un truc qui marche juste sur iOS 17 ou iOS 18 parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle, mais vos utilisateurs qui ont encore votre application qui roule sur iOS 16, ils ne l'auront pas. Ça, on comprend ça. Mais quand on fait cette gestion des caractéristiques avec un logiciel, que ce soit un logiciel cloud ou un logiciel comme celui-là intégré directement dans votre application, le but, c'est de l'enlever à court terme. Pardon, à moyen terme. Mais à court terme, c'est de un peu contrôler le déploiement de ces différentes caractéristiques.
Ouais, puis comme tu le dis, c'est à double tranchant ou c'est dangereux quand même parce que dans la mesure où il faut être sûr de son coup, quoi. Parce qu'une fois que c'est mis là-dedans, c'est dans votre code et puis c'est envoyé à vos utilisateurs ou ça peut être dans l'Apple Store.
Et l'utilisateur pourrait ne jamais mettre à jour votre application et exactement. Ne jamais obtenir les bonnes valeurs.
Il vous demandait un remboursement en disant « je pensais qu'il y aurait telle fonctionnalité, moi je ne la vois pas, etc. »
Et mon copain la voit.
Voilà, et essayez de lui faire expliquer « Non, elle était juste en test le mois dernier, mais maintenant, si vous téléchargez la mise à jour, elle sera disponible et tout ça. » Donc, c'est un petit peu risqué, donc je ne sais pas. Peut-être quelque chose qui est peut-être plus utile quand on est à la période de test de votre application dans Test Flight, peut-être, je sais pas. C'est une idée comme ça, de peut-être un outil intéressant pour vos testeurs. Ouais, pour votre testeur, mais voilà. À utiliser, comme tu dis, avec beaucoup de délicatesse. Oui. Ça peut être risqué, mais l'idée est bonne. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, encore une fois, d'avoir cette vue méta de son propre code et de ses fonctionnalités dans son application. Je trouve ça sympa. Donc, Featherquill, donc si vous allez sur GitHub, c'est le compte BrightDigit, BrightDigit. Et le projet s'appelle Feather Quill. Donc ça, c'est une plume. C'est une plume comment on, pour écrire, là, une plume... Je ne sais pas comment on dit ça, une plume à encre. Plumier. Bref. Une plume. Donc voilà, c'est ça. À regarder, je pense que c'est intéressant. Peut-être aussi de voir comment ça a été codé, là, tout ça. Ça peut être intéressant de voir comment c'est. Je pense que c'est pas énormément de code là.
C'est ça.
C'est des bonnes idées comme ça sur lesquelles on peut s'inspirer. On va passer maintenant à un utilitaire. C'est marrant parce que je pense qu'on avait parlé dans le passé d'un utilitaire qui ressemblait à ça.
Oui, il s'appelle, je cherchais le nom, là, c'est Hidden Bar que j'utilise.
Hidden Bar, ouais. Est-ce que je devrais l'utiliser moi en... Je pense que je l'avais mis, puis je sais pas. Enfin bref, des fois ça m'arrive.
Pour 14 pouces, tout un 16 pouces, alors t'as plus de place dans ta barre des menus. Moi j'en ai.
Ouais. Mais tu sais, j'arrive pas loin là. Quand j'ai tous mes icônes dans ma barre, là, il me reste peut-être une place ou deux avant que ça rentre dans dans l'encoche. Mais là, alors, qu'est-ce que c'est, ça fait de différent cette fois-ci?
Mais c'est pas un utilitaire cette fois-ci, c'est notre bon ami, une commande defaults write. Alors il y a quelqu'un qui a trouvé quelles étaient les commandes defaults write pour changer l'espacement qui existe entre les différentes icônes. Parce que bien sûr, si vous regardez vos icônes en haut à droite dans votre barre des menus, vous allez voir qu'il y a un espace entre chacun, hein, bien sûr, pour faire en sorte que ce soit une cible d'une certaine taille pour atteindre avec votre souris. Eh bien, vous pouvez, imaginez-vous, modifier cet espacement-là. Pour le passer de, disons, 10 points à 6 points, par exemple, pour les rapprocher un peu plus ensemble. On s'entend que si vous avez une dizaine d'icônes comme ça et que vous faites passer l'espace de 10 points à 6 points, vous allez récupérer 4 points fois 10 espaces ou fois 9 espaces, ce qui vous donne 36 points, ce qui vous permet donc de mettre probablement 3 icônes de plus ou au moins 2 icônes de plus dans votre barre des menus. Et vous pouvez jouer avec ces valeurs-là pour voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, qu'est-ce qui est le plus facile à utiliser et simplement en faire rentrer un petit peu plus dans votre barre avant qu'ils disparaissent en dessous de votre encoche.
Voilà, donc... C'est pas complètement magique non plus, hein, parce que vous pourrez pas ajouter des utilitaires ou des icônes indéfiniment. Là. Tu dis, vous en rajoutez 3, vous retombez sur le problème d'avant. Mais si vraiment vous avez vos applications...
C'est les 3, on en avait besoin. Hein.
C'est ça, et vos applications favorites, et vraiment vous voulez de tout voir. Voilà, vous avez besoin de ça. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un problème qui devrait être réglé par Apple, pas par la communauté. Ils ont... Il devrait mettre un peu plus d'intelligence là. Le système d'exploitation devrait savoir qu'il y a une encoche là. et travailler autour.
Compresser un petit peu comme dans les labels de texte où le texte se compresse un petit peu pour essayer de rentrer.
Ouais, quelque chose comme ça, ou même aller de l'autre côté, ça serait un peu, ça va être dans le territoire des menus ensuite sur la gauche, mais bon. Je sais pas, il y a quelque chose qui est un petit peu problématique.
Mais ça arrive déjà que tu as des menus qui sont juste pas disponibles quand tu as trop d'icônes là, puis des choses comme ça. Donc il y a déjà des conflits.
Donc je sais pas.
Ouais. Mais personnellement, j'utilise Hidden Bar et je l'aime bien parce qu'il prend pas beaucoup de place et il me permet de mettre un petit peu plus de trucs aussi quand j'en ai besoin. Ça, c'est une astuce qui vous permet d'éviter d'avoir à utiliser un utilitaire pour peut-être gagner un peu d'espace.
Ouais. Et puis ça coûte rien, c'est juste un petit default, un default write. Donc vous trouverez.
Vous pouvez les changer.
Ouais. Donc on mettra le lien de l'astuce dans les notes de l'émission, mais c'est sur le site FlakyBuild, FlakyBuild. Et on va finir par. Je sais pas comment appeler ça, c'est vraiment une petite bizarrerie là. Quelqu'un s'est dit, tiens, j'ai besoin de faire ça. Comment je peux faire ça d'une façon pratique qui peut être utilisée par d'autres, j'imagine. Donc, c'est une police de caractère qui vient d'Allemagne, hein, parce que le nom, oui. Déjà, c'est Schraubenkiste, je ne sais pas. Et c'est quoi, Philippe Mosso? Là, c'est un petit peu étonnant.
Alors, c'est une... vous avez sûrement déjà remarqué, si vous faites le moindrement de travail manuel, que vos tournevis ont des pointes de toutes sortes différentes. On parle de pointes en étoile, là où Philips ou la croix, dépendamment quand vous voulez en parler. Vous pouvez parler de la meilleure pointe de tournevis qui existe au monde, qui est la pointe carrée, qui est la Robertson. Je dis ça parce que ça a été inventé au Canada. Il y a évidemment la pointe plate, qui est une ligne en travers. Eh bien, si vous regardez les différentes vis et autres choses qu'on essaie de visser et de dévisser, vous avez toutes sortes de pointes différentes. Alors, vous en avez des... Maintenant, il y a des pentalobes, il y a des torix, il y a des trucs de sécurité avec juste deux pointes. Si vous avez essayé d'ouvrir votre micro-ondes pour en changer le fusible, comme j'ai fait, vous avez dû faire venir un tournevis spécial ou aller l'acheter au magasin quand il existe. Mais toutes ces pointes de vis-là et tous ces types de vis-là, que ce soit des vis Allen ou etc., ça serait bien d'avoir une police de caractère qui, au lieu d'avoir des lettres, a toutes ces différentes formes pour pouvoir les présenter dans un manuel d'instruction ou pour pouvoir faire des petites étiquettes pour mettre sur sa boîte à outils ou sur ses boîtes de vis ou des choses comme ça. Et vous voulez que vous êtes le moindrement obsessif compulsif. Vous voulez que ce soit parfait. Mais avec Schraubenkiste, vous avez une police de caractère qui fait exactement ça. Et comme c'est une police de caractère qui est faite par un Allemand, vous savez que c'est exactement parfait au point de vue technique. Donc, c'est ce que je recommande si vous avez besoin de présenter des formes de pointe de tournevis ou de tête de vis, c'est la même chose, avec le plus de précision possible, c'est la police Schraubenkiste.
Ouais, donc c'est rigolo. Sur le site... de Peter Wiegel, W-I-E-G-E-L, je pense que c'est son nom, l'artiste qui fait ça. Il y a tout un tas de... Je pense qu'elles sont... c'est lui qui a créé toutes ces polices, là. Mais voilà, il y a la fameuse police Schraubenkiste, où vous voyez, la tête de vis, parce qu'il y a aussi la forme de la tête des vis qui sont importantes, qui sont différentes. Il y en a qui sont plutôt plates, il y en a qui sont évasées, il y en a qui sont plus épaisses que d'autres.
On appelle appelé conique, des choses comme ça.
Voilà. Donc vous avez... Oui, vous avez
la traduction de Schraubenkiste, c'est boîte à vis.
Ah ben voilà, c'est tout simple. Désolé pour nos amis qui parlent allemand, qui rigolent là, quand ils nous entendent. Voilà, dans la police, vous aurez donc l'image de la vis vue de profil et puis l'image vue du dessus. Donc, c'est là où on voit le type d'encoche. Là, donc, et aussi, j'imagine, quelques lettres et chiffres là, pour mettre les tailles de tout ça, bien sûr, parce que ça a plusieurs tailles. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour imprimer ça, mettre ça dans des documentations en ligne, par exemple, qui expliquent à vos utilisateurs comment monter votre meuble. Voilà, ce que ça prend comme tête de vis et quelle taille.
Je le probablement plus dans un PDF parce que la documentation en ligne, ça veut dire qu'il faut que tu mettes la police en ligne. Mais la licence de la police de caractère est absolument libre. Alors, vous pouvez l'utiliser pour sur votre site web pour des documentations en ligne. Mais moi, je pensais plus à des impressions en local. Là,
probablement. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil sur le site de Peter Weigel. Donc c'est Peter trait d'union Weigel.de. Et / Schraubenkiste, là, si vous voulez trouver directement, donc schraubenkiste.html, mais sinon vous visitez le site. Je pense qu'il y en a peut-être gratuite, il y en a peut-être payante, là, des polices, mais voilà, il y a tout un tas de polices là-dedans, c'est assez intéressant. Mais il y a surtout celle-là dont on vient de vous parler. On arrive à la fin de notre émission aujourd'hui. Si vous voulez nous écrire et puis, nous présenter une police de caractère un peu loufoque à laquelle on n'avait pas pensé, vous pouvez le faire en nous écrivant à cacaocast@gmail.com. Vous pouvez aller sur le site, notre site statique HTML cacaocast.com, donc qui est fait avec Hugo.
Bientôt refait avec Ignite, ça.
Peut-être. Ça va peut-être me prendre 3 ans, 4 ans à la vitesse où je vais pour mettre à jour des fois le site. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Philippe, si on veut savoir, comment tu vas préparer ta semaine pour WWDC, où doit-on aller?
Ça va être sur Mastodon avec mastodon.social. Philippe C à mastodon.social. Et puis, ceux qui me suivent là-dessus, ils savent déjà où je suis allé en vacances. Alors, c'est bien.
Exactement.
Surtout de coucher de soleil.
Et pour le podcast, vous pouvez suivre CacaoCast à mastodon.world. Donc, je pense qu'on va essayer de se reparler dans 3 semaines. On va reprendre un petit peu notre...
Ça va être la semaine de l'WWDC.
Exactement. Donc, je pense qu'on va attendre la keynote du 10 soit passée, puis essayer d'enregistrer le lendemain pour avoir des nouvelles toutes fraîches. Si tout va bien, et on aura probablement plein de choses.
Pas tant la keynote que le State of the Union, c'est celui-là, j'ai hâte.
Ouais, voilà. Donc, on prendra le temps de regarder les deux bien en détail et puis d'en discuter très rapidement.
Ça va être la semaine où je vais simplement m'écraser dans un divan et écouter plein de vidéos de WWDC.
C'est bien. Puis en plus, tu peux le justifier au niveau professionnel. Oui, c'est du travail, donc voilà. Mais bon, pour nous, c'est pas vraiment du travail. Je trouve que c'est du bon temps là, de voir toutes ces nouveautés, ces démonstrations et tout ça. Donc,
et j'adore le nouveau format intéressant. De vidéo qui ont la longueur, seulement la longueur nécessaire. Pas besoin de rentrer dans un format de 45 minutes ou de 30 minutes obligatoirement. C'est juste la longueur dont ça a besoin.
Ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça pour les vidéos de la WWDC parce que du fut un temps, c'était... Voilà. Pas mal long, beaucoup de diapos avec beaucoup de code là-dedans. On s'endormait un peu là, surtout quand c'était même en direct. On était sur place là, et puis qu'on reste dans des salles sombres à regarder un écran pendant des heures toute la journée. Là, c'est pas évident.
C'est plus facile pour moi d'être dans une salle pour suivre la conférence que de la regarder en vidéo.
Regarder les vidéos, ok. Ouais,
les vidéos, je les regarde à 1.5x pour pas m'endormir.
Ouais, c'est sûr.
Sinon, à 1x, c'est clair que je m'endors.
Mais c'est sûr, ils prennent leur temps d'expliquer, etc. Mais comme tu le disais, c'est un peu plus concis. Ils vont juste sur ce qu'ils veulent montrer, puis les démonstrations et le code fonctionnent. Il n'y a pas de problème technique où ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Tout est bien ficelé, bien répété, bien préparé. Donc,
mon cerveau, quand j'écoute à 1x, c'est parce qu'il parle de façon très posée. Hein. Y a une façon Apple de parler. Là. Il parle comme ça et c'est une très bonne vitesse pour la plupart des gens. Mais pour moi, c'est une vitesse qui est absolument endormante. Et j'ai découvert que si je le mettais à 1.5x, c'était juste assez rapide pour que mon cerveau ne se mettent pas à aller à changer d'idée. Ils restent complètement concentrés sur ce qui est en train d'être dit. Et puis, si jamais j'ai manqué quelque chose, ce qui arrive, je peux faire pause et revenir en arrière. C'est très facile.
Ouais.
C'est vraiment bien.
Bon, c'est quelque chose que j'essaierai peut-être. J'ai pas l'habitude, mais
j'ai pas l'habitude, mais pour les vidéos techniques, je te recommande fortement 1.5x.
Excellent. OK, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie, Philippe.
Moi aussi.
On se reparle une prochaine fois.
Salut.
Bye bye.